Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Au sommaire de cette édition d'information, trois chefs d'État de la SADC se sont réunis en tripartite ce dimanche à Addis Abeba pour discuter de la meilleure coordination des opérations sur terrain des troupes de la SADC dans l'est de la RDC. Il s'agit de Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC. Lancement hier sur toute l'étendue de la République des épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024. Dans la province de la Tchopo, 234 candidats, dont 64 filles, ont affronté ces tests nationaux. Pendant ce temps, le Parlement des jeunes de la ville de Boutembo, dans la province du Nord Kivu, milite pour la baisse des frais de participation à cette épreuve fixée à 130 000 francs congolais par candidat. Notre invité nous vient de Goma, dans le Nord Kivu. Il s'agit du lieutenant-colonel Kedani Mensa, porte-parole militaire de la MONUSCO Goma. Dans cette interview accordée à Radio Kapi, le porte-parole de la MONUSCO à Goma fait le point de la situation de l'opération Springbok au Nord Kivu. Bonjour à tous. Le président Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, Évariste Ndayishimiye du Burundi et Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC ont tenu ce dimanche 18 février à Addis Abeba en Éthiopie une réunion tripartite sur le déploiement des troupes de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC dans l'est de la RDC. C'était en marge du 37e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements qui se tient dans la capitale éthiopienne. Cette rencontre est organisée quelques heures après le mini-sommet initié par l'Angola sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les détails avec Blaise Makassi.
Les présidents congolais, sud-africains et burundais ont discuté sur la meilleure coordination des opérations sur terrain. Tous les pays contributeurs des troupes de la SADC, au rang desquels l'Afrique du Sud et le Burundi, restent déterminés, selon la présidence de la RDC, à exécuter leur mandat dans le cadre de la mission confiée à eux dans l'est de la RDC. Bien avant cette tripartite, un mini-sommet initié par les présidents angolais avait entre autres évoqué le retour à un dialogue constructif et réconciliateur entre la RDC et le Rwanda, la cessation immédiate des hostilités, le retrait immédiat du M23 des zones occupées et le lancement du processus de cantonnement de ces mouvements. Pour rappel, le 17 novembre 2023, le gouvernement congolais avait signé l'accord portant statut de la force de la SADC qui est déployée en République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais s'engageait ainsi à mettre à la disposition de cette force les facilités diplomatiques liées à ce type d'intervention. La force de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo a pour mission de soutenir le gouvernement congolais dans ses efforts pour établir la paix et la sécurité dans l'est de la RDC qui a connu une augmentation des conflits et de l'instabilité posée par la résurgence des groupes armés, principalement le M23.
Parlons de ces communiqués. Les États-Unis condamnent fermement l'aggravation de la violence dans l'est de la République démocratique du Congo causée par les actions du groupe armé M23 soutenu par le Rwanda et sanctionné par les États-Unis et l'ONU, y compris ses récentes incursions dans la ville de Sake. C'est ce que l'on peut retenir d'un communiqué du gouvernement américain parvenu à Radio Kapi ce dimanche 18 février ici à Kinshasa. Plus de détails avec Paul Matendo.
Selon ce communiqué, cette escalade a accru le risque de millions de personnes déjà exposées à des violations de droits humains, notamment aux déplacements, aux privations et aux attaques. La même source déclare, je cite, « Nous appelons le M23 à cesser immédiatement les hostilités et à se retirer de ses positions actuelles autour des Sake et Goma, conformément au processus de Luanda et de Nairobi. » Fin de citation. Les États-Unis condamnent le soutien du Rwanda au groupe armée M23 et appelle le Rwanda à retirer immédiatement tout le personnel des forces de défense rwandaises de la RDC et à retirer ses systèmes de missiles sol-air qui menacent la vie des civils des Nations Unies et des autres forces de maintien de la paix régionale, acteurs humanitaires et vols commerciaux dans l'est de la RDC, poursuit le même communiqué avant d'ajouter qu'il est essentiel que tous les États respectent la souveraineté et les l'intégrité territoriale de chacun et tienne pour responsables tous les acteurs des violations de droits humains commises dans le conflit dans l'est de la RDC. Le gouvernement américain continue de soutenir les efforts diplomatiques régionaux et favorise la désescalade et crée les conditions d'une paix durable en RDC.
Autre nouvelle, il est urgent de trouver une solution sur les questions des FDLR et des ADF dans le sens de les transférer hors du territoire congolais. Message de Martin Fayulu Madidi adressé au chef d'État réuni au 37e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le président de l'ECID appelle l'Union africaine à condamner formellement les Rwanda et l'Ouganda pour avoir déstabilisé la RDC et à mettre en place un mécanisme de cessation d'hostilité engagé par le M23 sous la direction de l'armée rwandaise. En Nord Kivu, un calme précaire est observé ce dimanche sur toutes les lignes des fronts, notamment à Sake, dans les territoires des Massissi, mais aussi dans la localité de Mweso, groupement Bachali-Mokoto, dans les territoires des Massissi. Selon nos sources, dans la zone, les FRDC, avec l'appui de leurs alliés, les résistants Wazalendo, ont lancé hier des opérations contre les rebelles du M23 à Mbuhi, situé à moins de 3 km du centre commercial de Mweso, dans un endroit communément appelé Kavumbura, non loin de Bukama. Pour palper du doigt la situation qui prévaut sur les lignes des fronts, hier, les gouverneurs militaires des provinces du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, est descendu sur terrain à Sake, où il a renforcé les effectifs militaires de FRDC engagés sur les fronts. À l'occasion, le gouverneur a lancé un appel au calme de la population, car selon lui, la situation est sous contrôle des FRDC, ont indiqué nos sources. Je le disais au sommaire, les épreuves préliminaires de l'examen d'État édition 2024 ont été lancées hier sur toute l'étendue de la RDC. Dans la province de la Tchopo, 234 candidats, dont 64 filles, ont affronté ces tests nationaux dans différents centres disséminés à travers la province éducationnelle de l'EPST1. Les points avec Jacques Moukonkolé.
Les 234 candidats à 16 épreuves préliminaires, dont 64 filles, sont répartis dans 5 centres de la province éducationnelle EPST1, dont le siège est basé à Kisangani. C'est ce qu'a révélé l'inspecteur principal provincial de l'EPST Tchopo 1, Léon Omanjeka. Il s'agit de la ville de Kisangani, Banalia 1, Pafwasende 1, Ubundu et Loua. Avant l'ouverture des malles contenant les items des épreuves en présence de plusieurs personnalités, dont les services de sécurité et les membres du comité provincial de l'EPST, le directeur provincial de l'éducation a tenu à donner quelques précisions relatives à ces épreuves. Alain Mouigny a déclaré que le but poursuivi par ce test national est de contrôler les acquis antérieurs afin de certifier le niveau voulu des candidats pour affronter l'évaluation nationale proprement dite, à savoir la session ordinaire de l'examen d'État. Pour cela, il a appelé les candidats à la maîtrise, à la sérénité et surtout à avoir confiance en leurs propres connaissances. Signalons qu'à Kisangani, ces épreuves se sont déroulées dans la salle d'évaluation de l'Institut de Kisangani. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Pendant ce temps, le Parlement des jeunes de la ville de Butembo, dans la province du Nord Kivu, milite pour la baisse des frais de participation à cette épreuve. En effet, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, Peter Chirimwami, a publié un arrêté fixant les frais de participation aux différentes épreuves de l'examen d'État 2024 pour la province. Ces frais sont évalués à 130 000 francs congolais. Pour le Parlement d'enfants de Butembo, ces frais pour une province qui est en guerre et dont les parents sont souvent en déplacement est une charge supplémentaire qui perturbe la quiétude de la population. Robert Maneno Maté, président du Parlement des jeunes de Butembo, l'a dit à Blaise Makassi.
Nous avons découvert l'arrêté portant fixation des frais à la participation aux examens d'État et ça nous a tout d'abord surpris et inquiétés. Car passant de 94 000 francs pour l'année passée à 130 000 francs pour cette année. Et pourtant, si on compare les montants, là, les 130 000 francs avec la situation sécuritaire de la province, avec les ADF dans les territoires de Beni, on comprend que c'est quelque chose qui devient peu lourd. Le gouverneur de la province devrait tout simplement partager la misère que traverse sa population, se mettre un peu dans la peau de cette population pour comprendre comment c'est une population qui souffre. Les finalistes à l'école secondaire dans cette province, logiquement, devraient participer à ces examens d'État, en tout cas gratuitement. Il va falloir que cet arrêté soit tout simplement retirer et réadapter pour que tout le monde participe à ces examens d'État.
Dans la province de la Tchopo, les pouvoirs de 27 députés provinciaux élus lors des élections de décembre 2023 ont été validés hier à Kisangani. C'était au cours d'une séance plénière convoquée pour cette fin par le président du bureau provisoire de cet organe délibérant provincial. En attendant les verdicts des contentieux opposant certains candidats à la CENI au niveau de la cour d'appel, les députés proclamés par la CENI sont désormais couverts d'immunité parlementaire. Un reportage de Jacques Moukonkolé.
Bien avant la validation des mandats des députés provinciaux, les présidents et rapporteurs des trois commissions constituées pour la vérification des dossiers de chaque candidat ont présenté leurs rapports respectifs. La première commission s'est penchée sur les dossiers des députés des élus des territoires de Banalia, Bassoko, Isangi et Yaouma. La deuxième a examiné ceux des députés élus des territoires de Bafouassende, Opala et Ubundu. Et enfin la troisième a vérifié la régularité des dossiers des élus de la ville de Kisangani. Au terme de la présentation de ces différents rapports, les députés provinciaux les ont jugés recevables et les pouvoirs des candidats proclamés par la CENI ont été validés. Ceux-ci sont désormais revêtus d'immunité parlementaire. À la sortie de cette séance plénière, certains députés ont déclaré que le travail peut désormais commencer et qu'ils vont cette fois-ci travailler pour l'intérêt de la population et le développement de la Tchopo. Rappelons que ces 27 députés seront rejoints par deux chefs coutumiers, dont l'un d'Isangi et l'autre de Bafouassende. Ces derniers ont été élus dernièrement afin d'être coopté prochainement comme député provincial. Jacques Moukonkolé, Kisangani, Radio Okapi.
Entre-temps, dans la province du Maniema, investie le vendredi dernier aussitôt, la Ligue patriotique pour la promotion de la bonne gouvernance invite les députés provinciaux investis à travailler au profit de la population de cette province en répondant favorablement à leurs desiderata. Les coordonnateurs de cette structure citoyenne, Jules Chuma Maeshe, ajoutent que les sanctions constitutionnelles seront infligées aux élus qui se livreraient dans leurs propres intérêts. On l'écoute au micro de Florence Kizalunga.
Aujourd'hui, je viens pour féliciter encore les élus provinciaux. Nous invitons vraiment par cette occasion à tous les élus de travailler pour la population, à apprendre à aimer cette population qui a longtemps souffert pendant le mandat passé. Le 5 ans, vous avez remarqué avec moi que la province du Maniema a sombré dans la boue, a été vraiment éclaboussée par des événements malheureux. Et cette fois-ci, nous attendons que les nouveaux élus puissent vraiment regarder dans la même voie que la population et qu'ils répondent aux desiderata de cette même population. Franchement, nous sommes déterminés, nous, en tant que Ligue patriotique pour la promotion de la bonne gouvernance, qu'au cas où nous remarquons une certaine légèreté de la part de prestations de nos députés, en tout cas, nous allons user de toutes nos forces reconnues par la Constitution que la population peut initier une pétition et faire partir même un élu, au cas où ils ne se mettent pas au travail. Nous voulons que les élus puissent se mettre au travail tel que la population l'a estimé et nous les reconfions encore notre confiance.
En Mbujimayi, au Kasaï oriental, plus de 60 agents récemment recrutés à la société minière des Bakwanga Amiba réclament leur salaire de 8 mois. Ce vendredi, ces agents se sont rendus au bureau de la délégation syndicale de cette entreprise pour exprimer leur ras-le-bol. Quelques activités de leurs délégués étaient suspendues pour trouver des solutions aux problèmes de ces agents impayés. Des explications avec Esther Ndalafina.
Ils étaient plus de 60 agents devant le bureau de la délégation syndicale pour rencontrer les animateurs de cette structure. Un d'eux s'exprime.
Il y a de cela 8 mois que je travaille à la société. On est ici pour revendiquer notre droit de nous payer régulièrement. Nous avons de la famille. On est censé payer des logements, nourrir la famille. La société Miba ne nous paye pas.
Febatar Ntumba, président de la délégation syndicale, demande aux autorités de la minière de Bakwanga de trouver une solution à ces problèmes.
Nous, notre travail comme syndicat, c'est accompagner et défendre les intérêts des travailleurs et aussi de l'entreprise. Nous avons rencontré les autorités, mais la solution dont ils ont besoin, c'est être payé. C'est question que l'entreprise, avec la direction générale, trouve des solutions adéquates.
Contacté, André Kabanda, directeur général de l'AMIBA, demande à ses agents d'être calmes, car leurs dossiers seront traités au cas par cas.
Ils ont été engagés dans l'irrégularité absolue. Leur contrat, à la limite, pouvait être annulé. Mais si on les a retenus pour les reprendre progressivement, ils doivent être plus plus patient et comprendre que ce qu'on a déjà repris, plus de 140, ils étaient 200 et qu'il reste que 60.
Signalons que ces agents ont été recrutés par le comité sortant de la MIBA. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le vice-président du Zimbabwe a déclaré que le gouvernement bloquera une bourse universitaire pour les jeunes LGBTQI, une mesure que les groupes de défense des droits humains ont décrite vendredi comme une perpétuation des pratiques homophobes du pays africain. La bourse d'études de l'Université d'État pour les personnes âgées de 18 à 35 ans est parrainée par GALS, une organisation des membres pour le LGBTQI au Zimbabwe.
L'invité.
Notre invité nous vient de Goma, dans le Nord Kivu. Il s'agit du lieutenant-colonel Kedany Mensa, porte-parole militaire de la MONUSCO Goma. Dans cette interview accordée à Radio Okapi, le porte-parole de MONUSCO à Goma fait le point de la situation de l'opération Springbok au Nord Kivu. Le lieutenant-colonel Kedany Mensa s'entretient avec Bernardine Djambou.
Lieutenant-colonel Kedany Mensa, vous êtes le porte-parole militaire de la MONUSCO Goma. Bonjour.
Bonjour, madame la journaliste.
Que peut-on retenir à la date d'aujourd'hui de l'opération Springbok?
Merci, madame la journaliste. Depuis un certain temps, quelques presses mènent à dessein une campagne de désinformation à l'encontre de la MONUSCO en général et ciblant particulièrement la force. Ces fausses informations alléguant une collaboration entre la MONUSCO et le M23 n'ont d'autre objectif que de semer le doute dans les esprits et d'attiser une haine dont les conséquences pourraient impacter défavorablement la qualité du travail conjoint entre la MONUSCO et le FADC. C'est le lieu de rappeler tous les efforts consentis par les FADC, la MONUSCO et les autres composantes pour sécuriser les localités de Sake et de Goma. En effet, depuis le 29 octobre 2023, les troupes de la MONUSCO déployées dans le cadre de l'opération Springbok occupent des positions défensives couvrant toutes les voies d'approche possible du M23 vers Sake et Goma. Elles opèrent dans un environnement dense impliquant des acteurs que sont les militaires de FARDC, de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en République démocratique du Congo, SAMIR DRC, les forces burundaises et les Wazalendo. Ces positions défensives tenues conjointement avec ces forces suscitées demeurent toujours intactes. Suite au déploiement du M23 vers Kimoka et Lushangi le 7 février 2024, les positions défensives de la MONUSCO sont passées désormais sous les titres directs du M23. La détérioration de la situation sécuritaire le long de l'axe RN2 a engendré le renforcement des positions avancées de la MONUSCO. Ainsi, la brigade d'intervention a déployé des unités sud-africaines pour renforcer les unités de la MONUSCO déjà déployées. Il est à souligner que le commandant de la force avait précédemment déployé les forces pakistanaises du sud de Kivu dans le cadre de cette opération. Cet effort témoigne de la ferme détermination de la force pour protéger les civils de Goma et de Sake. Le 8 février 2024, le bataillon indien de la MONUSCO a fourni un appui-feu avec ses mortiers de 41 mm lors de la conquête de Sorina 6 et dont le bilan fait état de deux membres du M23 tués au combat. Le 10 février 2023, lors des affrontements entre les FADC et le M23 à Mouesso, le M23 avait tiré des obus de mortier en direction de Sake, l'un atterrissant dans la ville de Sake, près d'un centre de santé et l'autre à Mumbabiro. De plus, nos positions défensives vraies près de Kimuka ont fait l'objet de multiples attaques de drones kamikazes. Sur les 5 attaques de drones armés, un drone a été abattu avant qu'il ne puisse blesser qui que ce soit. Lors de ces affrontements, le M23 a subi des pertes importantes qui l'ont empêché d'avancer et les contraindre à se retirer de certaines positions. Ces affrontements ont néanmoins entraîné le déplacement d'environ 2000 personnes de Kashiru, Venzale et Zitem. Pour faire face à ce déplacement massif de la population, les casques bleus de la MONUSCO, en étroite collaboration avec les FARDC, ont établi un couloir sécurisé en Kashiru et Nzale pour faciliter la libre circulation des personnes et de leurs biens. De son passage à Goma, Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre congolais et ministre de la Défense, a mis l'accent sur les opérations menées par la MONUSCO aux côtés des FARDC pour la protection des civils. Il a rassuré la population de l'entière collaboration entre les FARDC et la MONUSCO dans le cadre de l'opération Springbok et a félicité la MONUSCO pour son travail remarquable. Il a également déclaré que la MONUSCO est partenaire du gouvernement de la RDC et travaille en étroite collaboration avec elle. Il a enfin rassuré la population en refutant catégoriquement les rumeurs répandues par le M23 faisant état de ce que la MONUSCO ne collabore pas avec les FARDC. Enfin, il est important de préciser à la population que la force MONUSCO continue de veiller à l'accomplissement de son mandat, celui de la protection de la population civile, avec son partenaire, les FADC, les inviter à ne pas croire aux rumeurs d'abandon de la ville de Saké.
Alors, comment la MONUSCO apporte-t-elle son assistance aux populations de Mouesso qui sont exposées aux attaques de groupes armés?
Dans le but de remplir son mandat de protection des civils et de permettre aux personnes déplacées, notamment les femmes, les enfants ainsi que les vieillards, les forces de la MONUSCO ont établi un périmètre de sécurité près de sa base à Kichanga en vue de protéger les 25 000 civils qui cherchent refuge en raison de la détérioration de la situation sécuritaire. Elles ont permis l'acheminement d'aide médicale et l'approvisionnement en eau potable aux déplacés. Enfin, un axe sécurisé a été défini dans la zone générale Mouesso-Kachirou pour permettre aux personnes déplacées de se rendre au camp des déplacés en toute sécurité.
Voilà, lieutenant-colonel Kendani Messa. Je rappelle à nos auditeurs de Radio Okapi que vous êtes les porte-parole militaires de la MONUSCO ici à Goma. Radio Okapi vous remercie.
Je vous remercie, madame la journaliste.
Et c'est par ici que nous mettons fin à cette session d'actualité. Polydor Basunga a assuré sa mise en onde sous la supervision et coordination de Martin Sebujangwe et Jacques-Yves Molima. Patience Ngalula à la présentation. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi.